Daniel Roy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président du directoire de la Banque Postale Asset Management. On va parler avec vous 10 ans après Lehman Brothers, et bien peut-être de faire un bilan sur la finance que vous connaissez bien. Et puis on parlera également de la semaine ISR qui vient. Quelle est la stratégie de la Banque Postale Asset Management dans ce domaine? Pour vous déjà, est-ce qu'on peut tirer des enseignements de Lehman Brothers? Et surtout, est-ce qu'ils ont été tirés par la finance que vous connaissez bien?
Ah oui, bon, votre question est très vaste. Donc en fait, on va retenir que quelques éléments, je pense, pour pas entraîner trop de confusion. Ce qui s'est passé au moment de Lehman, ça a été une crise de dette, une crise de levier, comme on dit dans le monde financier, et brutalement le château de cartes s'effondre on se rend compte que l'on finance des ménages américains qui ne sont pas solvables. Donc la cause est connue et elle est finalement très simple. Et tout le château de cartes s'écroule. Donc en fait, ce que depuis les régulateurs et les banquiers centraux ont essayé de faire, ça a été de consolider le dispositif et entre autres en renforçant considérablement les ratios prudentiels des banques. Malheureusement, je crains que ça n'apporte pas toute la réponse à la question. Mais là, il y a eu une vraie amélioration et on le voit dans la réorganisation du système bancaire européen, qui est un acquis aujourd'hui.
Oui, parce qu'il y a des observateurs qui vont dire que malgré ces régulations, on sait que les banques essayent d'éviter toutes ces régulations qui sont arrivées, mais malgré ces régulations, il y
Je
a
peux
eu.
vous
Oui,
interrompre?
oui.
Une banque n'évite jamais une régulation.
Oui.
Une banque applique toujours la régulation. Une banque peut émettre un avis, mais nous appliquons toujours les règles du régulateur.
C'est noté. Alors, malgré tout, on sait qu'il y a eu peut-être des investissements dans certains secteurs. Alors, à un moment donné, on pensait aux crypto-monnaies. Après, on a parlé d'autres actifs, comme des CDS synthétiques, par exemple, qu'on avait. C'est-à-dire qu'à chaque époque, on retrouve une prise de risque peut-être inconsidérée ou peut-être qui, dans quelques années, se révélera dangereuse.
Non, mais chaque règle a toujours son opposé qui va créer un problème sous-jacent. Alors là, si on devait, là encore, la question est très vaste, mais si on devait garder un sujet qui peut être une cause d'inquiétude pour l'avenir, c'est tout ce qui s'est développé dans le monde de l'ETF et dans le monde de ce qui semble être un produit simple et qui ne l'est pas toujours. Et l'inquiétude que l'on peut avoir en 2018, donc 10 ans après la crise, c'est est-ce qu'il n'y a pas un nouveau château de cartes dans cet empilement de nouveaux produits où les sous-jacents sont où? On croit acheter une duplication d'indices, dans certains cas c'est vrai, dans d'autres cas ce sont des indices synthétiques, donc la duplication de l'indice n'est pas si simple. Et moi je suis dans ceux qui pensent qu'en effet, la liquidité de marché est un enjeu en 2018, que la liquidité bancaire est mieux régulée, mais la liquidité de marché est un sujet qui n'a pas été abordé, ou alors par le côté le plus prudent, qui est la possibilité de fermer des fonds. C'est les fameux Gates qui étaient engagés dans la loi Sapin 2, si vous vous souvenez. Mais fondamentalement, ce point-là est l'élément sans doute encore d'inquiétude en 2018, si on a, par malheur, à gérer une nouvelle crise financière.
Alors là, peut-être pas la différence, mais ce qui est frappant en 2018, c'est effectivement pour les États, les dettes publiques, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit dans d'autres pays, en Italie par exemple, et puis aussi les dettes privées. Donc on se dit qu'on arrive dans une situation où les taux aux États-Unis vont recommencer à augmenter, mais avec des États endettés et parfois certains acteurs privés très endettés. Donc on retrouve le sujet de dette en 2018.
Alors, plusieurs sujets dans votre question. D'abord, sur la hausse des taux, vous évoquez les États-Unis. Oui, sans doute, les États-Unis sont en position pour pouvoir, et la Fed le fait d'ailleurs. Enfin, remarquez avec moi que la courbe des taux a une tête très bizarre. Pour une économie qui marche à plein régime, elle est quasiment plate, cette courbe des taux. Je suis un vieux gérant d'actifs, malheureusement, ou heureusement, je n'en sais rien. Mais je peux vous dire que dans le temps, un cycle, une reprise cyclique, c'était une courbe des taux pentue, on disait entre 200 et 250 points de base. Cherchez-les aujourd'hui, il n'y en a pas. Donc la hausse des taux, elle est vraie sur le court terme, elle n'est pas vraie sur le long terme. Donc modérons nos propos sur la hausse des taux. Et je crois d'ailleurs que le stock de dette est tel que les taux ne monteront pas très haut. Ça, c'est quelque chose qui me semble assez incontournable. Alors après, entre dette privée et dette publique, il y a encore une autre grande question derrière vos propos. Nous, on a la faiblesse de penser que dans certains cas, on préférerait acheter définitivement des dettes de grandes sociétés cotées que des dettes d'État, parce que certaines sociétés cotées sont bien mieux gérées que des États. mon propos est un peu polémique, mais c'est un propos que je colporte dans pas mal de réunions internes où nous travaillons avec les régulateurs, parce qu'en fait, ça pose une question de régulation, tout ça. Donc, et toute la dette, la valeur d'une dette n'est qu'à faire de bonne gestion, et tous les ménages qui pourraient écouter seront assez convaincus de ce que je suis en train de dire.
Oui, parce que là, on a quand même une, comme disent les analystes, une divergence entre les États-Unis. Vous avez ces taux positifs, vous avez le 10 ans qui est à 2,7, 2,8. En Europe, on a des taux qui restent négatifs. Donc, on a cette divergence avec les États-Unis qui vont peut-être remonter, effectivement, comme on l'a dit, et l'Europe qui ne remonte pas. Ça rappelle quand même des temps où la Bundesbank et la Réserve fédérale ne faisaient pas la même chose, non?
Ah oui, bah là, c'est officiel. C'est-à-dire que les États-Unis ont arrêté depuis un certain temps le fameux quantitative easing, le QE, comme on l'appelle dans notre jargon, alors que l'Europe, on y est toujours. Alors là-dessus, Mario Draghi a annoncé que cette histoire-là allait changer, donc ça se prépare. Il y a des effets d'annonce parce que la morphine à très haute dose, il faut préparer le marché au fait que ça va disparaître. Mais fondamentalement, cette dichotomie de politique monétaire est très connue. Alors d'ailleurs, c'est comme ça que les acteurs expliquent cette courbe des taux américaine en disant mais les taux longs américains ne sont pas élevés parce que c'est un prix mondial et ce n'est plus un prix américain. Je pense qu'il faudrait quand même en apporter la preuve un jour. Mais néanmoins, il y a bien une dichotomie majeure des politiques économiques. Mais la BCE prend en compte le cycle européen qui, comme on le voit tous les jours, est beaucoup plus lent parce qu'on fait plein de choses comme les États-Unis, mais on fait tout avec plusieurs mois, voire parfois quelques années de retard. Mario Draghi est arrivé un peu tard à la tête de la BCE, si je pouvais me permettre ce commentaire.
Oui, alors on notera aussi que M. Trichet pensait qu'il y avait de l'inflation, il avait augmenté les taux d'ailleurs à l'époque, donc on ne va pas revenir sur le passé.
Non, ne revenons pas là-dessus.
Par contre, on peut parler avec vous justement de votre expérience et de dire, est-ce qu'aujourd'hui, parce que la psychologie sur les marchés, c'est important, vous avez connu des hauts et des bas sur les marchés, sur les indices, mais il y a des traders qui, depuis 2007-2008, n'ont connu que la hausse. Si jamais ça se met à baisser, est-ce qu'on ne va pas retrouver cette psychologie des marchés, ce côté finance comportementale avec des paniques sur les marchés?
Je ne sais pas si c'est une question d'âge. Je pense que ce qui est une certitude, c'est que les marchés financiers ont un espèce de réflexe moutonnier qui, lui, est tout à fait gênant dans les comportements mais d'achat et de vente. Alors, vous savez, il y a un vieux dicton boursier, on achète au son du canon et au vent, au son du clairon. Mais il est rarement appliqué. Mais c'est notre boulot. C'est peut-être aussi parce que nous faisons mal la pédagogie auprès de nos propres clients. Il faut reconnaître que c'est une partie de notre activité qui est très compliquée. Mais non, le vrai problème des marchés, mais je crois que pour le coup, ce n'est pas une question de régulation, c'est une question de psychologie humaine. Nous sommes comme ça, on a la même chose dans la mode, on a la même chose dans des tas de sujets. Le diesel était très à la mode il n'y a pas très très longtemps. Hein. Et si j'écoute tout ce qui se dit tout autour, bientôt il n'y aura plus de voitures diesel. Donc vous voyez, donc, je pense que c'est assez humain et ça fait partie de nos comportements. À charge pour nous et à charge pour les professionnels, d'anticiper ces mouvements et de savoir les gérer correctement. Mais je ne suis pas plus inquiet sur cet aspect de la nature humaine aujourd'hui qu'hier. C'est la même chose.